VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Le cinquième sommet Europe-Afrique s'est achevé ce jeudi à Abidjan sur un engagement fort des leaders des deux continents à lutter contre le drame de l'immigration clandestine et ses dérives comme les marchés d'esclaves en Libye. Une action humanitaire doit être menée rapidement en Libye, a déclaré le président ivoirien Alassane Ouattara lors de la séance de clôture. Il a ajouté que les réseaux de passeurs doivent être mis hors d'état de nuire et une enquête menée. Son homologue guinéen, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a suggéré que cette enquête soit dirigée par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine. M. Condé a également demandé que des forces spéciales soient mises en place pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a déclaré que 3800 migrants actuellement dans un camp en Libye sont à rapatrier d'urgence. Ces migrants veulent sortir le plus rapidement possible de ce guépier, a-t-il précisé en soulignant qu'il y avait au moins 42 camps de migrants en Libye et un total global de migrants allant de 400 000 à 700 000 personnes dans ce pays d'Afrique du Nord. La question de la sécurité a été aussi abordée au sommet avec la montée en puissance des groupes djihadistes en Afrique. Le G5 Sahel, qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, a besoin d'une force africaine capable d'imposer la paix et dotée de mandats à la hauteur des menaces et d'un financement pérenne. C'est ce qu'a déclaré à la Réunion le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une réunion internationale aura lieu le 13 décembre en France pour accélérer le déploiement de la force multinationale G5 Sahel. Le président français Emmanuel Macron va y inviter ses homologues et des partenaires clés de la force conjointe de l'Union européenne, de l'ONU et de l'Union africaine. Le thème officiel du sommet d'Abidjan a été « Investir dans la jeunesse pour un développement durable ». Les leaders présents à la Réunion ont promis de faire tout leur possible pour retenir les jeunes Africains en Afrique et leur offrir des perspectives d'avenir. Le point avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Le président Alassane Ouattara, hôte du sommet, a été le premier à prendre la parole.
Chers jeunes, vous incarnez l'avenir de notre continent par votre dynamisme, votre ingéniosité et votre extraordinaire potentiel. Vous êtes un atout inestimable pour l'Afrique. Nous devons tout mettre en œuvre pour votre épanouissement sur notre continent qui a tant besoin de vous. Je vous invite à avoir foi en l'avenir, à ne pas vous lancer à l'aventure au péril de vos vies. Les leaders que nous sommes ont l'obligation de poursuivre et d'intensifier nos efforts pour vous offrir davantage d'opportunités et d'emplois, pour améliorer vos conditions de vie dans un environnement sécurisé.
La pauvreté, le chômage des jeunes sont l'une des causes citées par des experts qui poussent les jeunes africains vers l'Eldorado, entraînant mort et esclavage. Selon un bilan de la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, toujours au moins 6 personnes, dont 4 gendarmes maliens, ont été tués et d'autres blessés lors d'affrontements lundi en 3 pailleurs à la frontière entre le Mali et la Guinée. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Les 4 gendarmes sont morts lors d'une opération de sécurisation des populations sur le site d'exploitation minière d'une localité malienne à la frontière guinéenne, selon les forces armées du Mali. Elles ont affirmé que les gendarmes ont été victimes de tirs de ressortissants guinéens suite à un conflit sur l'exploitation d'un site aurifère entre le village malien de Liaoleni et un village guinéen. De leur côté, les forces de sécurité guinéennes estiment que ce sont plutôt les orpailleurs maliens, épaulés par des chasseurs et des gendarmes, qui ont attaqué des Guinéens sur une mine d'or du village de Faranoko, en Guinée. Bamako et Conakry ont envoyé des renforts sur place. Les affrontements entre orpailleurs sont récurrents dans cette région frontalière. La Guinée est riche en minerais de fer, de diamants, d'or et de bauxite et détient 2/3 des réserves mondiales.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, une forte présence sécuritaire est visible aujourd'hui à Kinshasa en cette journée de marche de l'opposition dans le pays contre le président Joseph Kabila. Ces marches ont été interdites à Kinshasa, Goma et dans d'autres villes par les autorités locales. RDC toujours, le vote citoyen appelé par la société civile se poursuivra le week-end prochain au pays et à l'étranger. Les organisateurs souhaitent avoir une plus grande affluence après la tentative de la semaine dernière. Edi Sango a joint l'un des initiateurs du vote, le professeur Jean Bellé.
Au moins 830 000 Congolais ont voté en ligne, c'est-à-dire que par téléphone, par WhatsApp, par Internet, ils ont utilisé beaucoup d'autres moyens. Et sur place au Congo, nous avons collecté près de 92 000 personnes qui ont voté, notamment à l'est du pays, des personnes qui ont voté aussi à Kinshasa, et puis aussi dans la diaspora congolaise. Alors, si nous avons décidé de donner encore une chance aux Congolais, c'est parce que beaucoup de gens n'étaient pas au courant qu'il y avait ce vote. Et aussi, beaucoup de gens n'y croyaient pas que ça allait se faire. Et on a dénombré, par exemple, dans tout Kinshasa, près de 130 000 personnes se sont déplacées pour aller voter. Mais malheureusement, les agents électoraux que nous avons mis en place ne se sont pas présentés pour plusieurs raisons. D'autres raisons, c'est que les agents de sécurité se sont présentés comme agents électoraux et ils ont saboté.
Il existe une commission électorale nationale indépendante au Congo. Vous parlez de vote citoyen. C'est en fait quoi les votes citoyens?
Bon, les votes citoyens, c'est parce que la commission électorale dont vous venez de parler a échoué complètement dans sa mission. Ils n'ont pas pu organiser les élections telle que prévue dans la Constitution. Donc, ils ont violé la Constitution. Ils ne sont plus légaux. Ils n'existent plus du point de vue constitutionnel. Le pouvoir revient au peuple. C'est le peuple qui lui avait donné ce pouvoir constitutionnel en votant la Constitution. Le pouvoir du peuple aussi, c'est le pouvoir du président de la République et des sénateurs, des parlementaires qui revient aussi au peuple congolais. Et ils étaient seulement des locataires. Maintenant, comme leur contrat de location est fini, c'est le propriétaire du pays qui est le peuple qui reprend tout. C'est pourquoi le peuple va organiser maintenant les élections pour choisir les nouveaux mandataires qui vont l'aider à aller aux élections apaisées et puis démocratique dans les meilleures conditions.
La CENI a déjà fixé la date du 23 décembre 2018 pour la présidentielle.
Nous ne faisons pas confiance à ce que la CENI vient de fixer. En 2015, M. Nanga parlait de 16 mois pour organiser les élections. Puis à chaque étape, il parle d'une nouvelle date. Et regardez, il avait parlé de 2019. Deux semaines après, il parle de 2018. D'un coup, il a levé 360 jours. Ça, ce n'est pas crédible. Et puis aujourd'hui, il a parlé de vote électronique. Il a dit que nous avons la machine à voter, mais ce n'est pas le vote électronique. Ils sont en train de tromper la population, de raconter des histoires, et ce n'est pas correct.
Déjà, les gens ne se sont pas présentés les week-ends derniers. Est-ce que ce n'est pas un discrédit? Pensez-vous que les Congolais vous suivent?
Ah oui, bien sûr. Et je vous dis, nous avons reçu les Congolais qui sont en Inde, qui sont en Chine, qui sont au Brésil, et qui sont au Pakistan, et qui sont en Australie, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, partout en Afrique. Ils réclament où est-ce que nous allons voter. Donc les Congolais sont en train de nous suivre. Partout au Congo, les Congolais nous appellent.
Jean Bellé, un des initiateurs du vote citoyen de la société civile congolaise. Actualité américaine, le nombre de personnes entrant aux États-Unis qui ne sont pas citoyens américains ou titulaires d'un permis de séjour a baissé de 4% au premier semestre, selon les toutes dernières statistiques dans ce domaine. Plus de précision avec Solange Niamoulissa.
Les statistiques ont été publiées hier par les organismes dépendants du ministère du Commerce qui compilent les entrées sur le territoire américain sous le régime appelé I-94, exemption de visa. Les chiffres font apparaître que 33 864 millions de personnes ont passé les frontières aériennes, terrestres et portuaires des États-Unis, soit une baisse de 3,9% sur la même période l'année dernière. Le président Donald Trump veut construire un mur entre le Mexique et les États-Unis pour empêcher l'immigration illégale et les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier dernier. Aussi, l'administration Trump a interdit de manière permanente en septembre l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 8 pays pour la plupart du Moyen-Orient, du Tchad et de la Corée du Nord. Cette décision fait toutefois l'objet de recours en justice.
Et pour terminer, le Royaume-Uni est très proche d'un accord avec Bruxelles sur le règlement financier du Brexit, sa sortie de l'Union européenne. C'est ce qu'a assuré mercredi un commissaire européen, mais les chiffres avancés par les médias, qui s'élèvent jusqu'à 55 milliards d'euros, ont provoqué des remous chez les élus britanniques. La commission, qui négocie au nom des 27, n'a donné pour sa part aucun chiffre officiel. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.